Bonjour à vous, chers auditeurs. Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. C'est déjà notre 12e émission. Oui, Mathieu fait des grands yeux. Oui, cela fait déjà 3 mois que nous avons rendez-vous, vous et moi. Et dans plusieurs entreprises, 3 mois, c'est ce qu'on appelle la probation. Soit ce moment où on confirme officiellement le lien d'emploi et on a accès aux avantages sociaux et tout et tout. C'est souvent une période pour faire ses preuves et pour savoir si nous-mêmes, l'entreprise, nous convient, s'il y a un fit culturel. Alors j'espère de tout cœur que dans votre cœur, au fil du temps, a passé sa probation et que vous êtes désormais des auditeurs permanents. C'est la fête du travail bientôt et le travail sera donc au cœur de notre émission, de cette 12e émission. Le travail que l'on a, celui qu'on aurait voulu avoir et celui qu'on n'a plus. Donc, comment le travail évolue au fil des âges et du temps. Et pour en discuter dans le premier bloc, Mathieu Guénette, conseiller d'orientation, chargé de cours et auteur de « Trouver sa place au travail quand on se sent un peu extraterrestre ». C'est aussi le retour du radio-roman des deux Louise qui s'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire le travail quand on n'en a plus. Donc, comment on fait pour retraiter sa vie? Je me suis moi-même interrogée sur l'étymologie du mot « travail » et je vais vous parler de ça dans notre dernier bloc, ainsi que quelques propos sur l'historique de la fête du travail. J'ai fait, comme le disent les complotistes, j'ai fait mes recherches. Et je vous livre un petit peu le fruit de ces recherches-là, ainsi que quelques réflexions sur comment, d'après moi, le travail va évoluer en temps de post-COVID. Pour lancer bellement cette 12e émission d'Au fil du temps, je vous offre cette fois-ci un classique du monde du travail, le 9 à 5, chanté par un néanmoins classique de la chanson, Dolly Parton. Alors, 9 à 5, 9 to 5, Dolly Parton.
Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind.
It's up.
Mathieu Guénette n'est pas n'importe quel conseiller d'orientation. C'est mon conseiller d'orientation. Celui qui m'a permis de faire un choix avisé entre les deux offres d'emploi que j'ai reçues. En fait, il est tellement en demande, ce Mathieu, que Catherine Bourderon, notre recherchiste, l'a contacté sans même savoir que Mathieu m'avait été grandement utile. C'est aussi que Mathieu m'accompagne presque toutes les semaines parce qu'il diffuse une balado lui-même qui s'appelle « Les ambitieux » que j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Pour cause, Mathieu Guénette a obtenu à la fois en 2017 le prix professionnel de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et celui du livre RH de l'année de l'Ordre des CRHA pour l'ouvrage « Le candidat viscéral ». On le reçoit aujourd'hui pour parler de son plus récent livre, « Trouver sa place au travail quand on se sent un peu extraterrestre » aux éditions Septembre. Bonjour Mathieu.
Bonjour Chantal.
Quel plaisir de se retrouver.
Ben oui, je suis toujours content de te parler, peu importe le contexte.
Oui, c'est ça, ça va être un tout autre contexte aujourd'hui.
Ben oui.
Mais la raison justement pour laquelle moi je t'avais choisi, c'est que j'avais entendu parler de ta réputation auprès des gens qui ont des profils atypiques et j'imagine que c'est un peu ça l'essence de ce livre-là.
Totalement, totalement. Puis moi-même, j'ai un profil atypique et j'aime les profils atypiques, puis j'aime que les profils atypiques s'aiment eux-mêmes. Parce que souvent, les gens atypiques, des fois, ils se voient comme des gens handicapés et je trouve ça triste, je trouve ça tellement dommage. Dommage pour eux, puis dommage pour la société, parce que c'est des gens qui peuvent apporter énormément.
Tellement, écoute, ce que j'apporte, moi, à mon travail depuis un mois, là, c'est fabuleux. Très, très humble. Mais quel conseil, justement, tu donnes à des gens qui ont des profils atypiques, qui se sentent un petit peu extraterrestres pour leur démarche d'emploi?
Bien, d'abord, c'est de connaître sa valeur et connaître la valeur qu'on a par rapport aux autres. Parce que si je suis original, mais que ça n'apporte pas de valeur à personne, je suis juste bizarre, ben c'est pas ben intéressant. Mais si je me dis, moi, en quoi je suis unique, puis comment ça peut m'aider et aider des gens dans leur travail, dans leur vie, ben c'est comme ça qu'on est capable de créer de la valeur, puis aussi être capable de la promouvoir. Parce que si on est le secret le mieux gardé en ville, ben c'est dommage un peu, parce que les gens, ils ne sauront pas qu'on peut les aider, qu'on peut faire quelque chose pour eux. Puis il faut trouver une manière créative. Parce que, exemple, envoyer son CV, tout simplement, souvent, les moteurs, tu sais, les façons de trier les CV, ils ne favorisent pas les profils atypiques. Il faut trouver des façons atypiques aussi de se faire connaître, puis de créer sa valeur.
Tu as tellement raison, Mathieu, parce que une de mes grandes amies est conseillère en ressources humaines et elle m'a ajusté mon CV pour les moteurs de recherche, justement, pour que je puisse être captée par les moteurs et rendre mon profil un peu moins atypique.
Bien, en fait, moi, je crois beaucoup à la force du réseautage. Puis, tu sais, il y a tellement d'outils maintenant, il y a tellement de façons de faire. Puis moi, je trouve ça drôle que les gens que je rencontre qui sont soit en orientation, ben, qui viennent me voir pour de l'orientation, pour des stratégies de recherche d'emploi, ils disent, ben, c'est quoi les façons de faire? Comment on fait d'habitude? Mais au contraire, il faut aller au-delà des habitudes. Il faut se prendre en allant là où on s'y attend pas, parce qu'autrement, on compétitionne en fonction de tout le monde, comme si on était un numéro.
Ben, parlant de numéro, à 20 ans et à 55 ans, en quoi c'est différent, la recherche d'emploi?
Bien, en fait, je dirais que quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, là, ce que tu veux, c'est surtout apprendre. Il faut que tu te développes, puis il faut que tu sois capable de t'insérer, hein, d'apprendre un peu les bases, puis que tu sois capable de faire des compromis. Parce que c'est sûr, si tu te dis, moi, c'est ça que je veux rien d'autre, ça va être difficile. Puis, c'est aussi de penser à la fonction de son potentiel. C'est pas tant nos compétences qui comptent que notre potentiel, c'est-à-dire les compétences en devenir. T'es mieux d'accepter un emploi qui est moins bien payé, qui est plus précaire, mais dans lequel tu vas apprendre énormément, que de chercher un emploi avec des bonnes conditions. Parce que ce qui compte le plus quand t'es jeune, c'est comment tu vas te développer au niveau de tes compétences. Et c'est ça l'occasion, là. Puis d'être ouvert, d'être curieux.
Et du côté des plus âgés, là, qui sont ce qu'on appellerait dans un modèle classique près de la retraite?
Les 55 ans, bien, eux, c'est différent parce qu'eux, ils ont déjà développé leur expérience. Ils sont moins en mode exploration. Et je dirais que c'est d'être capable d'être sélectif, de dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Puis d'être capable de dire, ben ça, je n'irai pas là, moi. Puis je vais faire des... puis de dire, qu'est-ce qui va m'aider? Je me rends compte, moi, avec le temps, je deviens plus compétent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais plus je deviens compétent, plus je deviens difficile, par exemple. Parce que je suis très exigeant. Tu sais, je me dis, non, tu sais, quand quelque chose ne fait pas mon affaire, ben je trouve ça plus dur de l'accepter comme quand j'étais jeune. Et tu sais, je veux pas faire n'importe quoi, travailler avec n'importe qui. Puis je pense que on doit s'écouter de ce côté-là. Puis de aussi être stratégique en disant, ben avec les acquis que j'ai déjà, où est-ce que c'est possible d'être mis le plus en valeur? Donc, comprendre, encore une fois, sa valeur sur le marché, puis en même temps, tout en étant capable de dire, ben là, qu'est-ce que je connais de moi, qu'est-ce que je veux à présent, là, sachant ce que je sais. Puis, je pense qu'il faut se choisir. Le temps, on se rend compte que le temps passe vite, puis qu'il nous en reste moins devant nous. Et de dire comment ces années-là peuvent être profitables.
Ben justement, hein, ces dernières années, il y a eu beaucoup ce fameux concept-là de liberté 55 où on voyait des gens là, debout sur un paddleboard. Là, puis...
Ah, ben oui!
Je me dis, est-ce que c'est un vœu pieux, ce truc-là?
Ben, c'est sûr que faut pas. Si on veut, ça dépend de ce qu'on veut. Donc, on veut pas tous les mêmes choses. Ça, c'est la première des choses. Mais si, par exemple, ce qu'on veut, c'est la liberté d'avoir des loisirs, pas trop se casser la tête, ben on peut, à ce moment-là, se créer une carrière qui permet ça. Puis je pense que on peut se penser à une structure, bâtir un système. T'sais, si, par exemple, je veux de la liberté à 55 ans, ben peut-être que, bon, pas commencer à 54 ans, là, commencer avant, de dire, est-ce que je peux avoir des revenus passifs? Si moi, je travaille pas, ben est-ce que je peux faire travailler mon argent? Si je veux faire travailler mon argent, ben il faut que j'en aie un peu d'argent. Puis, il faut que je sois capable aussi de savoir comment, si tu es de l'immobilier, si tu es des actions. Puis ça fait partie aussi de la gestion de carrière. Hein. C'est pas juste mon descriptif de tâche.
Ben justement, il y en a aussi qui décident de se lancer en affaires, à préparer tranquillement là, un projet d'affaires et je me disais, Mathieu, on va écouter une chanson que tu nous as suggérée.
Oui.
Ma petite entreprise d'Alain Bachung. On écoute ça puis on continue à se parler tout de suite après.
Entreprise connaît pas la crise, épanouie elle existe, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper. Palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, en bouche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre, je perds le nord, garde-forme, quand je vois se poindre les pyramides, nez à nez, mes lubies. Là, je coule à mes oreilles, ma petite entreprise, connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe, des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le l'aube, l'aube. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le l'aube, l'aube.
Bonjour Mathieu Guénette.
Bonjour.
Hey, dis-moi, pourquoi tu as choisi cette chanson, Ma petite entreprise d'Alain Bachung?
Ben, en fait, ben, j'aime beaucoup Alain Bachung, j'aime beaucoup la chanson, hein? C'est excellent. Mais surtout aussi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chansons qui parlent du travail, qui parlent de ces gens-là travaillant, qui bâtissent des choses. Moi, je trouve ça beau, le travail. Mm. Oui, l'amour, c'est fun. Il y a plein de beaux sujets de chansons, mais je trouve que le travail, c'est un sujet négligé. Et pourtant, c'est un endroit où il est possible d'exprimer nos passions, d'être nous-mêmes. Puis une chanson qui parle des gens qui parlent fort, pas qui parlent fort, mais qui travaillent fort.
Oui.
Qui parlent fort aussi, des fois,
ça arrive, oui.
Oui, des fois, ils peuvent savoir ensemble. des gens qui travaillent fort, puis qui tu sais, les entrepreneurs, ceux qui ont des petites entreprises, je trouve que c'est tellement beau et tellement glorieux ce qu'ils font, là. Ils se dédient complètement. Mais j'ai appris par la suite que c'était une chanson qui était une analogie sur le couple. Puis là, je dis, bon, ça parle encore d'amour, finalement.
Oui, les entrepreneurs, ils ont eu à faire preuve de beaucoup de résilience là, avec la COVID pour avoir exercé mes talents comme entrepreneur. Je suis de tout cœur avec eux.
Ah oui. Puis moi, j'ai de l'admiration. Ils m'inspirent. Tous ces entrepreneurs-là. Puis quand j'ai des entrepreneurs clients, là, j'aime tellement ça penser que je peux faire une différence pour eux, là, les aider à atteindre des objectifs, là. C'est tout à fait louable.
Et est-ce que tu reçois aussi beaucoup de gens qui, justement, voudraient partir en affaires ou tout simplement changer de carrière, mais qui n'ont pas activé ce souhait-là par peur de la sécurité ou parce qu'ils sont dans une prison dorée et n'osent pas?
Ah, oui.
Qu'est-ce que tu suggères à ces gens-là?
Bien, c'est sûr que ce que je trouve, c'est de faire un choix en connaissance de cause avec discernement. Que moi, je suis pas le genre à dire « écoute tes passions, puis lance-toi dans le vide, c'est sûr, la magie va opérer ». Je crois pas à ça. Je trouve que c'est un beau conseil poétique, mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Que d'avoir une analyse. C'est comme moi, par exemple, j'utilise des tests psychométriques, tests d'intérêt, tests de personnalité. Les tests ont des percentiles. C'est pas les tests sur Internet là, qui sont le fun, là, mais qui ont pas la rigueur scientifique. Pour dire ben en quoi vraiment la personne est unique, c'est quoi son profil? Tu veux être entrepreneur, c'est quoi ton désir? T'sais, si tu te dis ben moi, c'est parce que j'aime pas ça avoir un boss, pis c'est seulement ça, ben peut-être que tu vas avoir une mauvaise surprise, là, parce que finalement, tous tes clients sont susceptibles d'être un peu tes boss. Là.
Oui, mais, en fait, t'as plus pour l'avoir vécu, tu as plus de boss.
Ouais. Ben oui. Ben, il y a beaucoup de gens à qui tu dois plaire. Puis, tu sais, c'est capable aussi de savoir tout ce que ça comprend. Par exemple, quelqu'un qui veut être entrepreneur. Une fois que tu le sais, tu dis, c'est ça que je veux faire, j'ai un projet. Puis moi, souvent, je parle du principe que si tout était possible, il n'y avait aucune censure, parce que souvent, nos peurs, tu sais, qu'est-ce que mon père va dire, ma femme, tu sais, ce genre de peurs-là, ben, ça nous limite, ça nous censure, puis on ne sait plus ce qu'on veut vraiment faire. Une fois que tu le sais, les tests nous ont aidés, ben, là, c'est de faire un plan d'action, et un plan d'action qui est structuré en plusieurs étapes, puis qui tient compte autant du court terme, de dire j'ai des obligations financières, je vis un peu d'anxiété avec ça, que le long terme. Le long terme, mais comment je me projette dans 10 ans, si je veux, par exemple, la liberté 55, là, être en train de faire des activités nautiques, comme tu disais.
Du paddleboard.
Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour être capable d'arriver là? Puis ça se planifie. Puis, penser à des objectifs, c'est en termes de compétences. Les gens, ils parlent pas beaucoup de compétences, mais les compétences, c'est pas quelque chose de fixe que t'as ou que t'as pas. C'est quelque chose que tu peux décider d'avoir et que tu peux faire des actions concrètes pour y arriver. Et ça, c'est le coaching. Là. C'est là où ça embarque, la notion du coaching. Puis de dire, je suis une matière transformable.
J'aime bien ton analogie et certaines clientèles qui ont eu particulièrement à vivre ce type d'enjeu-là et tu as un cas de ce genre-là dans ton livre dont on parle, je pense à Yasmina. En fait, tous les immigrants, là, ça me touche vraiment beaucoup parce que j'ai eu à collaborer à un livre comme ça, des gens qui ont exercé des métiers qui les passionnaient dans leur pays et qui arrivent ici et qui n'ont pas les équivalences pour exercer ce métier-là. Et j'imagine là, que dans les CHSLD, les hôpitaux, il y en a eu beaucoup de ces gens-là qui se disaient « ben je peux contribuer puis c'est pas possible pour moi ». Comment tu peux les aider, ces personnes-là?
Bien, première des choses, je les aide en faisant preuve d'empathie, là. Ça veut dire tout simplement d'accueillir l'émotion. Tu sais, ça veut pas dire que je change quelque chose à court terme avec l'empathie, mais au moins que la personne se sente écoutée, acceptée, c'est déjà un gros plus. Puis ensuite, c'est d'être capable de revenir à l'essentiel. Et de dire, ben, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi, mais qui je suis, qu'est-ce qui est important? Et de ramener ça à des critères. Tu sais, dans le livre, par exemple, c'est une personne qui était avocate dans son pays, elle ne peut pas exercer son métier ici, mais disait, qu'est-ce que tu aimais dans le métier d'avocat? Et ça va devenir des critères. Et les critères, ils ont plus de flexibilité. On peut concevoir différents scénarios. Puis des scénarios, ben on essaie de voir quel est le scénario qui est le plus intéressant. On a des scénarios, en fait, c'est plusieurs, un peu comme dans les films, là, Back to the Future, là, tu t'imagines, s'il tourne à gauche, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est un scénario, mais à la place, on regarde un autre scénario, si tu tournes à droite, qu'est-ce que ça donne? Puis là, on peut faire 4-5 scénarios, puis après ça, on se dit, bon, maintenant, quel est le scénario qui est le plus intéressant parmi ceux qui sont possibles? Puis après ça, ben on les précise, les scénarios. Comme ça, je travaille. Je sais pas si je suis clair, là, mais on fait des possibilités, on les analyse, puis on se dit, ben, qu'est-ce qui est possible pour toi? Mais le scénario idéal, que tu sais, la vie est un miracle, malheureusement, il est beau ce scénario-là, mais il est pas là. Que là, il faut y aller avec qu'est-ce qui est possible. Mais souvent, les gens ont beaucoup plus d'options qu'ils le pensent. On reste dans des carcans. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là.
Oui.
Les extraterrestres, là. C'est qu'on pense qu'un emploi, c'est nécessairement du 9 à 5, du lundi au vendredi. C'est de dire, ben là, il faut que je rentre dans un mode. Là. Puis moi, mon métier de conseiller d'orientation, là, je l'adore. Là. Mm. Ça fait 22 ans que je fais ce métier-là.
Bravo.
Mais si je regarde dans un disque, merci, mais si je regarde dans un livre une définition de conseiller d'orientation, je me dis, ah, ça a l'air bien plate, ce métier-là. Je le trouve plate quand il est écrit dans un livre. Moi, j'en ai fait quelque chose qui me ressemble. J'ai mis de la couleur. Je l'ai transformé, le métier, pour en faire quelque chose qui est totalement moi, puis faire en sorte que les gens aussi aient envie de ça, qu'ils se disent pas « Ah, il est bien bizarre, Mathieu, comme conseiller d'orientation », mais au contraire, qu'ils voient de la valeur ajoutée à ce que je peux leur apporter avec mon originalité.
Bien, justement, tu parlais du rôle tout à l'heure avec l'exemple de Yasmina, avocate. Moi, c'est souvent ce que j'ai dit à mes fils, qu'on a des compétences qui sont transférables à d'autres endroits et qu'il n'y a pas qu'un chemin. Et je vais citer là-dessus Sophie Brochu, la nouvelle PDG d'Hydro-Québec, qui a dit une chose qui m'a vraiment touchée. On a plusieurs vies, donc on peut se réinventer.
Ah oui, comme Sophie Brochu, je ne sais pas si tu savais, mais elle a étudié en théâtre au départ.
Ah, pour vrai?
Oui, hein, en même temps, ça l'aide, elle fait beaucoup de communication, elle fait souvent des conférences.
Ben justement, je parle de mes fils, là. Comment, si on est un parent ou même un grand-parent, on peut aider nos jeunes à s'orienter?
Ben en fait, la première des choses, c'est de faire en sorte qu'ils prennent soin de leur démarche, qu'ils prennent leur démarche au sérieux. Ça veut dire qu'on leur dit pas quoi faire, on les conseille pas, on essaie d'éviter ça. Dire, ben moi, à ta place, c'est sûr que je ferais ça. Souvent, quand on veut parler de quelqu'un, on va finir par parler de nous. En tout cas, moi, c'est sûr que je ferais ça. C'est ça que je ferais, oui, mais là, ça parle de toi, mais ça parle pas de ton enfant. On peut parler, dans le fond, des différents modèles de qu'est-ce qui existe, mais d'être assez prudent. Puis, les encourager à se connaître. Puis, des fois, ils se rendent pas compte aussi que dans leur loisir, il y a des éléments qui sont transférables.
Oui.
Puis, tu sais, je vous donne un exemple. Bon, souvent, les jeunes que moi, je rencontre, il y en a beaucoup là-dedans qui sont des amateurs de jeux vidéo. On dit, bon, les jeux vidéo, tu perds ton temps avec ça. Puis ça veut pas dire que tu aimes les jeux vidéo, tu devrais faire carrière comme designer de jeux vidéo. Mais, exemple, il y a des jeux de vidéo où tu gères, où tu as des ressources. Ça a beau être des personnages fantastiques, des orques, puis des affaires fantastiques, mais quand tu ramènes ça au marché du travail, ben gérer, que ça soit gérer des pièces d'or ou gérer de la vraie argent, c'est de la gestion. Le principe est là. Donc ça, c'est un exemple de transfert. Mais un jeune ne peut pas faire ce genre de lien-là.
Hey, Mathieu.
Le monde du jeu, le monde du travail.
Mathieu, il semble qu'on aura la chance de se retrouver. On va te retrouver comme chroniqueur dans les prochaines semaines. Alors, je suis enchantée de savoir qu'on a un rendez-vous bientôt.
C'est certain, j'ai bien hâte aussi. J'ai bien aimé notre rencontre d'aujourd'hui. Puis je suis sûr que je vais aussi adorer nos autres chroniques ensemble.
Bon, mais à très bientôt, Mathieu. Je vais rappeler les coordonnées en fin d'émission pour te rejoindre.
Plaisir, Chantal.
Après la pause, le radioroman des deux Louises sur l'évolution du travail à travers le temps.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Je vous propose d'écouter une chanson classique, tellement classique qu'elle a été intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs. C'est « La vie de factory » de Clémence Desrochers. Et ça me tient tout particulièrement à cœur parce qu'on parle de l'évolution des métiers à travers le temps. En ce moment, quand je pense à la factory puis aux couturières, je pense à ces femmes et ces hommes qui nous confectionnent nos masques réutilisables. Alors, merci mesdames et messieurs s'il y en a. Alors, la vie de factory de Clémence.
J'suis venue au monde seule, comme tout le monde. C'est seule que j'continue ma vie. Adieu le père, j'pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis rentrée à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant, à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de le dire, je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire, je suis pas un sujet à chanson.
La vie de factory de Clémence Desrochers. Comme l'émission d'aujourd'hui est consacrée au travail à travers les âges, nos chroniqueuses, les deux Louise, se sont penchées sur le sujet. Est-ce que le mot retraite est encore d'actualité en 2020? Est-ce que ce mot reflète bien la réalité des personnes de 65 ans et plus? C'est le thème de notre radio-roman d'aujourd'hui. À vous les Louise!
Coucou, c'est moi!
Seigneur, tu m'as fait un saut!
Ben, tu m'as dit d'entrer, que ça serait pas barré.
Oui, oui, écoute, c'est bien correct. C'est parce que j'étais trop concentrée, faut croire.
C'est sûr que planter comme ça devant ton ordinateur à 9 heures le matin, ça peut être intéressant, pas pour rire. Hey, regarderais-tu des photos de pompiers pour te faire perdre la notion du temps?
arrête donc ça. Non, non, non. Écoute, c'est juste que je viens de réaliser que ça va être la fête du travail bientôt. Fait que le travail, la retraite, je me suis mis à penser à un paquet d'affaires.
Mais comme quoi?
Ben, que j'ai commencé à travailler à 15 ans comme secrétaire. Puis quand j'ai pris ma retraite, 40 ans plus tard, hein, j'étais directrice avec un baccalauréat en poche.
Ouais, c'est un parcours. Hey, t'as dû travailler fort.
Oh, mais j'ai étudié par les soirs, tout en travaillant à temps plein. Puis comme si c'était pas assez, imagine-toi donc, j'ai fondé un syndicat dans la compagnie où je travaillais. La fouille de la jeunesse, comme on dit.
Ben, moi, mon parcours, il est pas mal plus traditionnel. Bon, j'ai étudié pour être enseignante. Moi, j'ai adoré travailler dans ce milieu-là. Je suis impliquée au niveau syndical, comme toi. Puis quand j'ai pris ma retraite, ben, j'étais directrice d'école depuis une dizaine d'années. Ouais, on en a ramé un coup, toi puis moi.
Exactement. Et puis, tu sais que ça fait déjà 10 ans que j'ai pris ma retraite.
Ben moi, là, ça va faire 15 ans le mois prochain.
Puis, j'ai pas vu le temps passer.
Moi non plus.
Ben, justement, il me semble que ce mot-là, retraite, ça correspond pas pantoute à notre réalité. Tu sais, retraite, là, ça signifie se retirer de la vie active, se mettre en retrait. C'est comme si c'était le début de la fin.
Hey, t'es pas réjouissante, toi, matin? Moi, je considère la retraite comme une chance, pas comme une dure réalité. Oui, quand j'ai pris ma retraite, là, j'étais bien décidée à profiter pleinement de mon temps libre.
Ben, moi aussi, Louise, mais la réflexion que je me faisais, là, c'était l'idée que la société se fait des retraités.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je regarde, quand j'ai annoncé à mes filles que je prenais ma retraite, sais-tu, ça a été quoi leur première réaction?
Non, quoi?
Hey, c'est une super nouvelle, ça, maman! On n'aura plus de problème de gardienne, puis en plus, ça va te tenir occupée!
Ah, oh, ben oui, hein, le fameux préjugé qu'à la retraite, on n'a plus rien à faire!
Exactement, tu sais, mais moi, là, ma retraite, je l'avais bien planifiée. J'avais des projets plein la tête, puis j'avais belle intention de toutes les réaliser. Ben, c'est sûr que je voulais prendre du bon temps avec mes petits-enfants, mais pas à temps plein, par exemple.
Hey, c'est pas mal la même chose pour moi, hein? Moi aussi, j'avais des projets plein la tête. Ben, donc, bénévolat, tu sais que c'est notre engagement bénévole qui a fait qu'on s'est rencontrés, Louis.
Hey, je m'en rappelle très bien. Ça fait 10 ans qu'on fait du théâtre ensemble. Imagine les centaines de pages qu'on a mémorisées, les représentations qu'on a données, les tournées qu'on a faites. Hey, je te dis qu'on a fait pas mal le tour des résidences des centres d'action bénévole à travers le Québec.
Oh, ça, c'est certain. Puis si c'était pas de la pandémie, là, ben, on serait déjà en pleine production. Mmh. Mais un de mes projets, c'était aussi de voyager. Tu sais, de visiter des pays que je connaissais juste par les livres ou les reportages à télévision.
Voyager. Hey, on en a profité en masse dans les premières années de notre retraite. Une chance. Parce qu'aujourd'hui, là, avec la santé de mon mari, bon, on fait encore des petits voyages, mais ici, au Québec, les voyages outre-mer, là, c'est pas mal dans nos souvenirs.
Ben, de mon côté, il y a pas mal encore, il n'y a pas de problème de santé, mais tu sais, avec la pandémie puis notre âge, là, je sais vraiment pas quand on va pouvoir aller plus loin que le Québec. Mais moi, c'est comme toi, j'ai tellement de beaux souvenirs que ça me prive pas vraiment, puis on va voyager ici, dans notre province. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, Louise, tu sens que tu fais partie de la société?
Bien, certain. Tu poses une question, Martin. Moi, là, je m'intéresse à tout ce qui se passe autour de moi puis dans le monde. Puis je m'implique dans des causes qui me tiennent à cœur, comme l'avenir de notre planète, par exemple. Je me fais une opinion des politiciens, je vais voter. Fait que oui, je me sens très impliquée dans la société. Je me considère comme une citoyenne à part entière.
Ben, je te demande ça parce que moi, là, je me reconnais pas partout dans la définition du mot « retraite ».
Ouais, je vois où tu vas en venir, hein. Tu sais, si on n'a pas un travail rémunéré, ben, on devient invisible.
C'est exactement ça. Tu sais, quand quelqu'un te demande « qu'est-ce que vous faites? » C'est pas pour savoir si tu cultives des fleurs ou si tu fais du bénévolat pour la popote roulante, hein, non. C'est pour savoir quelle est ta contribution dans la société. Quel est ton travail?
Hey, c'est certain que lui-même, ça reflète vraiment pas la réalité de la retraite. Mais si tu as bien raison, on devrait plutôt parler d'étapes de la vie, ou tiens, de passage de la vie.
Justement, un passage de la vie où on fait des choix. Tiens, toi, entre autres, tu as fait le choix de prendre des cours d'espagnol puis de yoga.
Puis toi, avec ton travail à temps partiel à la bibliothèque, ben, tu as fait le choix d'aller travailler.
Puis j'adore ça. Hey, ça fait déjà 5 ans que je suis là, hein? Ben, tiens, j'avais 65 ans quand j'ai commencé. Mais sais-tu que il y a à peine 20 ans, là, j'aurais même pas été embauchée parce que j'aurais été déjà casée comme une personne pouvant plus travailler.
Tu sais que ça me fait penser à une discussion que mes enfants avaient la semaine passée sur les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Ben, ils disaient que tous les appareils électroniques avaient une obsolescence programmée.
C'est exactement comme nous autres. Non, mais c'est vrai. Écoute, c'est comme si à 65 ans, on devenait obsolète, hein, on devenait inutilisable. Ben, la preuve, là, Louise, c'est que ça fait pas si longtemps que ça. Ben, les gens étaient obligés de prendre leur retraite à 65 ans.
Oui, mais les lois ont changé depuis ce temps-là, puis la société a évolué.
Oui, oui, ça, je te l'accorde, la société a évolué. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit pas mal plus de monde de 60-65 ans qui démarre une deuxième carrière. Ben écoute, regarde, prends nos maris, hein. Les deux ont fait des carrières en gestion, puis maintenant, il y en a un qui est sculpteur, puis l'autre est peintre.
Ben, il y a aussi les gens qui continuent de travailler dans leur domaine parce qu'ils aiment ça. Leur travail, c'est leur passion. Hey, regarde Gilles Vigneault. Il a 92 ans, puis il donne encore des spectacles.
Jeannette Bertrand, à 95 ans, poursuit sa carrière d'autrice, puis elle a même offert des ateliers d'écriture pendant le confinement.
Hey, j'ai un autre exemple. Il y a un acteur chinois. Il a été sculpteur, puis là, il est devenu mannequin à 80 ans. Hey, pense-y, là. Actuellement, à 84 ans, il est plus populaire que jamais.
Tu vois, en fait, là, Louise, il n'y en a pas de limite. C'est ça qui est formidable. Tu sais, tu peux avoir exercé n'importe quel métier, mais rien t'empêche de te réorienter, puis ça, là, à n'importe quel âge.
Ben oui, écoute, moi, je connais une directrice, moi, qui est devenue massothérapeute à sa retraite. Dans son nouveau passage de vie.
Ben, tu vois, là, où notre réflexion nous a amenés, on se rend compte qu'aujourd'hui, le chiffre de l'âge, ça ne veut plus rien dire. Et que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient obsolète.
Bon, ben écoute, à ce temps qu'on a refait le monde, là, il est temps de partir si on ne veut pas être en retard au musée.
Hey, notre billet d'entrée, il n'est pas 13 heures. Hey, je suis prête, madame. J'ai tellement hâte de la voir, cette exposition-là. Hein?
Hey, merci les deux Louise. Merci de votre contribution, de votre travail à Au fil du temps.
Et c'est un plaisir. Puis en tout cas, si ça peut peut-être des fois donner des idées ou aider, ça peut être formidable pour nous autres aussi.
Et on vous retrouve dans un mois?
Tout avec à plaisir. Fait, Chantal.
Bon, mais on vous retrouve avec grand, grand plaisir dans un mois. Bonne visite. Et on enchaîne avec la chanson « Bella Ciao » que plusieurs des fans de l'émission « La Casa del Papel » connaissent très bien. Je vais vous expliquer l'origine de cette chanson-là après.
Mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina, mi sono alzato. E ho trovato l'invasore. O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Le genti passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno diranno che bel fiore. E le genti che passeranno
mi diranno che bel fiore.
Genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Si vous êtes, comme mon fils Vincent, 17 ans, des fans finis de la série La Casa del Papel, présentée entre autres à Netflix, vous avez reconnu cette chanson fétiche qui est la trame sonore de la série. Et en fait, ça m'a fait plaisir de rappeler à mon fils que cette chanson-là, qu'il aime tellement, a connu plusieurs évolutions au fil du temps. Alors, Bella Ciao, c'est un chant italien d'origine ouvrière. Ça appartient à ce qu'on appelle les chants de travail, qui avaient autrefois pour plusieurs métiers. Il était à l'origine chanté par une classe de femmes qu'on appelait les mondines, et non les mondaines, qui leur servaient à se plaindre de leurs conditions de travail. Elles étaient saisonnières et travaillaient dans les rizières, courbées toute la journée. Alors, ça a été comme un petit peu un chant de révolution. Et on a vu justement ensuite cette chanson-là, Bella Ciao, utilisée dans toutes sortes de mouvements de révolution. La chanteuse et résistante Giovanna Daffini a enregistré une version de cette chanson-là. Les Italiens ont ensuite modifié les paroles pour l'utiliser contre Mussolini et Hitler. Et depuis, la chanson a été adoptée comme hymne par de nombreux mouvements politiques et de gauche et une majorité de groupes communistes et dans de nombreuses manifestations qui se revendiquent comme résistantes. Alors, toute une histoire, cette chanson-là. Il y a des centaines de versions. Il y a d'ailleurs Yves Montand qui a fait sa propre version en 1963. Et c'est pour voir à quel point plus l'histoire change, plus on se réinvente et plus finalement c'est souvent les mêmes choses. Mais on est effectivement dans des grands, grands bouleversements. Et ce lundi, 7 septembre, c'est la fête du travail. La fête du travail, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on célèbre ça? Ah, Mathieu, qu'est-ce que... Ah ouais, il baille. Oui, souvent, hein, qu'est-ce qu'on fait? On se repose, la fête du travail. Mais jusque dans les années 20, la fête du travail, elle était célébrée. Elle était célébrée par des chars allégoriques. Des fanfares et ces fameux chars allégoriques-là étaient liés à des métiers et des unions syndicales et ils défilaient dans les rues, comme la fierté, comme la Saint-Jean. Donc, Mathieu, est-ce que ça te dit le lundi 7, là, on défile sur Sherbrooke, ta console et mon micro?
On pourrait faire ça en direct.
Pourquoi pas l'émission au fil du temps en défilant? Mais je pense qu'on est appelé à de grands bouleversements au niveau du travail. Et un que l'on vit pour beaucoup en ce moment, c'est la précipitation du télétravail. Probablement que plusieurs d'entre vous n'avaient peut-être jamais fait de télétravail et là, vous avez été précipités dans ce nouveau mode-là. Pour ma part, j'ai à peu près toujours exercé en mode télétravail depuis très longtemps et j'ai toujours dit que le sentiment d'appartenance n'avait rien à voir avec la chaise sur laquelle nous sommes assis. Par contre, ça demande de très, très grands ajustements et là, on se demande, est-ce que ça va perdurer? Maintenant que plusieurs personnes y ont pris goût, qui ont vu que ça pouvait les aider à mieux concilier travail, vie personnelle, comment on va ajuster le monde du travail? Quel impact sur l'organisation, la productivité, les résultats et même l'allocation des baux? Si les gens sont en télétravail, ben on va avoir des espaces qui vont devoir se réinventer complètement. En même temps, à l'autre opposé, on voit des gens qui ont de la difficulté à faire une coupure dans leur vie personnelle et qui sont conséquemment toujours en train de travailler. Donc, ça nous amène là, à réfléchir beaucoup à comment on prend soin de soi. Moi, pour ma part, j'ai débuté un nouveau travail depuis un mois et je n'ai été officiellement au bureau qu'une seule fois. Une seule fois! Et pourtant, j'ai de magnifiques bureaux au centre-ville avec une vue magnifique, mais la plupart du temps, je vois mes collègues dans un ordinateur. Je ne sais même pas s'ils ont des jambes. Donc, ça va être tout un défi de se voir en vrai, de collaborer en vrai, mais pourtant, on a créé quelque chose de fantastique parce que le sentiment d'appartenance est là. J'ai eu l'occasion de réfléchir à ces thèmes-là sur comment justement la COVID va affecter le monde du travail. Si vous avez envie de lire mes réflexions, j'ai écrit un article qui s'appelle « Et si la COVID prenait un autre sens » où je m'amuse à déconstruire les lettres COVID. C'est sur mon profil LinkedIn si vous avez envie de lire cet article-là. J'ai également écrit deux articles sur ce que j'appelle les rituels virtuels. Donc, ce que c'est ça, c'est des manières de recréer les contacts un petit peu informels qu'on a autour de la machine à café. Parce que quand tout le monde est en télétravail, on a plus ces rendez-vous-là informels, luncher ensemble, prendre un café, les jasettes de corridor, ceux qui fument encore et qui vont fumer sur le parvis, puis qui s'échangent toutes sortes d'informations. Donc, ces endroits-là n'existent plus. Donc, c'est important de les recréer, ces rituels virtuels-là. Je vous offre pour boucler notre émission une chanson assez classique de Claude Dubois, « Le blues du businessman ». Et j'apporte ma petite contribution. Moi, j'ai mon bureau en haut d'une tour, mais je suis heureuse et j'espère que j'en ai l'air. Et j'ai gardé le sens de l'humour et aussi le sens des affaires. Alors, je vous offre le blues du businessman de Claude Dubois.
« J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi, es-tu heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste.
Pouvoir dire pourquoi j'existe. C'est d'ailleurs l'un des thèmes de notre émission de la semaine prochaine, Exister en fonction des âges dans notre société. On reçoit Mitiko Miller, aussi autrice comme Mathieu, coach et formatrice en communication consciente. Nous allons également recevoir Stéphane Lemire, gériatre et co-auteur de Vieillir la belle affaire. Si cette émission-là vous a inspiré à changer de métier ou à préparer, comme les deux Louise ont dit, la prochaine étape de votre vie, je vous encourage vraiment à consulter Mathieu Guénette. Vous allez le retrouver sous Les chercheurs de sens, également son podcast et Les ambitieux qu'on retrouve sur Spotify. Et bien sûr, vous allez aussi retrouver Au fil du temps sur Spotify. Merci à Louis Garon, chef d'antenne, Mathieu Tessier à la régie, Catherine Bourderon à la recherche. Et que vous souhaitez pour la fête du travail? Du bon repos! Bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine!